Vous écoutez, on lit pour vous.
Réduire le poids du web sur l'environnement. Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette paru le 15 septembre 2025 dans La Presse. Une seule recherche sur l'Internet peut générer jusqu'à 10 grammes d'équivalent CO2, le même bilan carbone qu'un sac de plastique. Multipliez ce chiffre par 8 milliards, soit le nombre de requêtes faites chaque jour dans le monde. Pour l'entrepreneur Louis Jerecht, 23 ans, c'est beaucoup trop. Il a donc fondé l'agence Nicely en 2023 avec sa collègue designer Salomé Drapeau pour accompagner entreprises et individus souhaitant exploiter un site web en minimisant les répercussions environnementales. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception web, un concept mieux connu en Europe. Au Québec, moins de 10 entreprises s'y consacrent. Citation. L'éco-conception permet de faire des sites plus légers, plus rapides, donc qui vont consommer moins d'énergie et avoir une moins grande empreinte carbone. Fin de citation, explique Sylvain Amoros, professeur invité de marketing numérique à HEC Montréal. Les conséquences environnementales des recherches web sont bien réelles. Le numérique cause environ 4 % des émissions globales de gaz à effet de serre, soit deux fois plus que le secteur de l'aviation. Ce chiffre pourrait doubler, voire tripler, dans les prochaines années, en particulier avec l'essor de l'intelligence artificielle, selon plusieurs études consultées par La Presse, dont une de l'Agence de la transition écologique, organisme gouvernemental français. À chaque visite d'un site web, une page est téléchargée sur l'appareil électronique, ordinateur, téléphone, tablette électronique. Alléger un site Internet facilite ce téléchargement et permet donc de réduire la quantité d'énergie consommée par l'appareil, mais aussi par les serveurs qui traitent la requête et sont très énergivores puisqu'ils doivent être refroidis. Alléger au maximum. Première étape pour rendre un site web écologique, réduire le champ d'utilisation à l'essentiel. Citation. Un truc tout bête. Je vais enlever tous les caractères indiens et russes dans une police pour alléger son poids. Fin de citation, explique Louis Jerecht. En conservant uniquement les lettres latines et les signes, dollars, point d'interrogation, arrobas, etc., il divise par deux ou trois le poids de la police. Enlever les vidéos qui se chargent toutes seules en arrière-plan, remplacer les images sans valeur ajoutée par des icônes, limiter le nombre de lignes de code, privilégier la version mobile. Additionner l'un à l'autre, tous ces petits changements diminuent le volume de données à transférer et l'énergie dépensée. Autre aspect essentiel pour rendre un site web plus écologique, s'assurer que le centre de données qu'il héberge est au Québec. Pourquoi? Deux raisons, proximité et hydroélectricité. Plus il est loin, plus les relais sont nombreux et plus la consommation énergétique augmente. L'agence Nicely fait affaire avec un des 67 centres de données sur le sol québécois alimentés à l'hydroélectricité plutôt qu'au charbon, comme aux États-Unis. Citation. On a l'impression que le numérique, c'est immatériel. C'est les nuages. C'est une énorme escroquerie parce qu'il n'y a rien de plus physique que l'Internet. Fin de citation. Ajoute Sylvain Amoros, aussi chercheur à la chaire de commerce électronique de HEC Montréal. Tendance à l'obésiciel. Depuis quelques années, la tendance est à l'obésiciel sur l'Internet, c'est-à-dire des pages web de plus en plus lourdes qui consomment beaucoup plus, observe le chercheur, qui explique, citation, « C'est comme si on avait une automobile qui n'est pas plus belle, qui n'est pas plus rapide, dans laquelle je ne peux pas mettre plus de monde, mais qui consomme 115 fois plus d'énergie, de pétrole ou d'électricité. » Fin de citation. Souvent, les lignes de code, images ou vidéos superflues ne rendent même pas service au propriétaire du site, renchérit Louis Jerecht. Sa petite entreprise de 5 employés allie à ses idéaux environnementalistes la conviction qu'un site mieux développé et plus esthétique sert mieux ses clients. Contrairement à la croyance populaire, simplifier un site web ne signifie pas restreindre l'expérience de l'usager, selon lui. Certes, un site web éco-conçu n'élimine pas l'entièreté des émissions de gaz à effet de serre. Tout de même, citation, on épargne quelques kilos de CO2. Fin de citation, se réjouit le jeune entrepreneur. C'est déjà un début pour sensibiliser les clients et utilisateurs aux problèmes véritables qu'est la pollution numérique, affirme-t-il. Bon pour la planète, bon pour l'entreprise. En plus de réduire la consommation d'énergie, l'éco-conception favorise le référencement d'un site Web, soit sa visibilité. Autrement dit, un site Web plus léger se classe plus haut dans les résultats proposés par un moteur de recherche. Citation. On arrive à quintupler le contenu sur le site Web et à diviser l'empreinte carbone par 4. Fin de citation, illustre Louis Jerecht en citant l'exemple d'une entreprise qui est passée de 50 utilisateurs mensuels à 200 après la mise en ligne de son nouveau site Web éco-conçu. À terme, un site Web éco-conçu réduit aussi la facture d'une entreprise pour l'hébergement de son site Internet sur un serveur. En 2024, l'agence Nicely a accompagné 20 entreprises dans leur virage numérique écologique. En 2025, elle a déjà fait de même avec 17 clients en seulement 6 mois. Citation. On est vraiment en pleine croissance. Fin de citation, souligne fièrement Louis Jerecht. C'était Réduire le poids du Web sur l'environnement, un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, paru le 15 septembre 2025 dans La Presse.
Le vaccin contre l'hépatite B, nouvelle cible de Robert F. Kennedy Jr. Un texte de Sarah Collardet, publié le 7 décembre 2025 dans Le Devoir. Après avoir modifié les recommandations vaccinales sur la COVID-19 et la rougeole, le comité d'experts nommé par le secrétaire d'État américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., s'attaque au vaccin contre l'hépatite B, amplifiant ainsi le discours vaccino-sceptique venant des États-Unis. Citation. « Je suis très préoccupé par le message envoyé », affirme le Dr Nicolas Brousseau, spécialiste en médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec et expert dans la vaccination, notamment celle de l'hépatite B, en entrevue au Devoir. Citation. Il faut vraiment regarder de manière critique ce qui sort de ce comité parce qu'il transmet des messages qui peuvent être faux ou des éléments erronés, a-t-il avancé. La crainte est que la confiance s'érode et qu'une plus petite portion d'enfants se fasse vacciner. Fin de citation. Pour Jesse Papenberg, pédiatre, infectiologue et microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill, ce discours, citation, va augmenter l'hésitation vaccinale aux États-Unis. On a maintenant des personnes en position d'autorité qui vendent des faussetés, des mésinformations, a-t-il déploré, allant même jusqu'à parler de tragédie scientifique. Fin de citation. La plupart des membres de ce comité sont critiqués pour leur manque d'expertise ou pour avoir relayé de fausses informations sur les vaccins. Un retour en arrière. Vendredi, ce comité a annoncé avoir décidé de cesser de recommander le vaccin contre l'hépatite B à l'ensemble des nouveau-nés contre l'avis de nombreux soignants. Cette décision devrait être suivie par les autorités fédérales américaines et conduire à la fin de l'actuelle politique de prévention du pays en vigueur depuis plus de 30 ans. Ce programme, mis en place en 1991, a contribué à une chute considérable des cas d'hépatite B aux États-Unis, a affirmé le Dr Papenberg, qui est également le président du Comité sur l'immunisation du Québec. Citation, « Il n'y avait aucune raison fondée pour remettre en question cette politique », a-t-il souligné. Pour lui, il n'y a pas de doute, citation, c'est clair que ça va diminuer la couverture vaccinale aux États-Unis. Fin de citation. Selon la nouvelle recommandation, l'administration d'une première dose de vaccin contre l'hépatite B sur 3 dans les premières heures de la vie d'un enfant ne serait plus systématiquement recommandée au bébé dont la mère a obtenu un dépistage négatif. Elle serait donc reportée après les deux premiers mois de vie du nourrisson. L'hépatite B est une maladie virale du foie qui peut notamment être transmise par la mère lors de l'accouchement et qui expose les personnes touchées à un risque élevé de décès par cirrhose ou cancer du foie. Le risque d'évolution de son stade aigu vers une infection chronique est estimé, guillemets, à plus de 90 % chez les nouveau-nés et les nourrissons, à 25 à 50 % chez les enfants de 1 à 5 ans et à moins de 5 % chez les personnes de 5 ans et plus, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Fin de citation. Et au Québec? Au Québec, le programme québécois d'immunisation prévoit 3 doses de vaccin contre l'hépatite B à 2, 4 et 18 mois après la naissance. Selon le Dr Papenberg, cette différence avec les États-Unis s'explique par le fait que, citation, « notre système de santé est différent ». Fin de citation. Le système américain est fragmenté et marqué par des problèmes d'accessibilité qui engendrent un risque plus grand de transmission des maladies infectieuses. La vaccination n'est pas obligatoire au Québec, mais fortement recommandée. Citation, on mise vraiment sur le fait de bien informer les parents pour qu'ils prennent la meilleure décision pour leurs enfants, a expliqué le Dr Brousseau, fin de citation. Selon lui, environ 9 enfants sur 10 sont vaccinés contre l'hépatite B dans la province. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, en 2021-2022, 88 % des enfants d'un an avaient reçu toutes les doses des vaccins offerts par le programme québécois d'immunisation, y compris celui de l'hépatite B. Cette action, c'est un vaccin très important, a souligné le spécialiste. Il y a de la flexibilité sur le moment exact où il peut être donné. L'important, c'est que tous les enfants soient vaccinés contre l'hépatite B. Fin de citation. Pour lui, la stratégie du Québec est intéressante, puisque le vaccin contre l'hépatite B est administré en même temps que d'autres dans une dose combinée, notamment contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Citation, ça permet de protéger les enfants contre l'hépatite B sans faire d'injection supplémentaire. Fin de citation. Et c'est la fin de « Le vaccin contre l'hépatite B, nouvelle cible » de Robert F. Kennedy Jr., un texte de Sarah Collardet, publié dans Le Devoir du 7 décembre 2025.
Et si on repensait le pourboire? Un texte d'Alain Reyes, paru le 11 décembre 2025 dans la presse. Depuis le 7 mai 2025, les commerçants qui proposent des pourboires sur les terminaux doivent désormais les calculer sur le montant de la facture avant taxe, afficher clairement l'option de refus et celle d'entrée à un montant personnalisé. Ils doivent aussi éviter toute mise en scène incitant à la générosité, emoji, qualificatif, etc. Un pas dans la bonne direction au moment où le pourboire s'invite partout. Café, boulangerie, boutique de crème glacée, chaîne de restauration rapide, épicerie et même garage, comme l'a rappelé récemment la chroniqueuse Marie-Ève Fournier. Le phénomène ne relève plus du simple ressentiment individuel. Selon le plus récent rapport d'Options consommateurs, de nombreux Québécois reçoivent entre 20 et 30 demandes de pourboire par mois, souvent dans des commerces où cela n'était pas la norme auparavant. L'étude documente aussi une montée des taux proposés. L'habituel 15 % s'est transformé en 18 % 20 % ou même 25 %. Qui n'a jamais vécu une scène absurde en lien avec ce phénomène? Pas plus tard que la semaine dernière, dans un restaurant, j'ai commandé au comptoir avant d'aller m'asseoir. Aucun service à la table, donc. Pourtant, en payant, sur le terminal, la première option de pourboire était, à 18 %. On a débattu sur la manière de demander un pourboire, mais sans remettre en question le modèle lui-même. Le système actuel repose sur la pression sociale. Si tu ne donnes pas, c'est toi le problème. Cette culpabilisation implicite n'a rien d'un geste volontaire. Elle transforme un choix théoriquement libre en norme tacite. Surtout, le pourboire se substitue de plus en plus au salaire. Des milliers d'employés dépendent d'une rémunération variable soumise à la météo, à l'affluence, à l'humeur des clients. Pour un travail essentiel, souvent exigeant physiquement et émotionnellement, est-ce vraiment digne? Dans le secteur de la restauration, par exemple, ce modèle creuse une injustice entre employés. Pourquoi, là où il n'y a pas de convention de partage de pourboire, un serveur reçoit-il des pourboires, alors que le cuisinier qui prépare les plats ou la personne qui nettoie les tables, tout aussi essentielle, n'obtiennent rien de ce supplément? Instituer un salaire fixe permettrait une justice équitable entre tous les membres de l'équipe. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce. Le montant du pourboire dépend trop souvent de l'apparence physique, du genre, de l'âge, de l'accent, de l'origine ou de la perception que le client se fait de celui ou celle qui lui offre un service. Deux personnes qui accomplissent le même travail peuvent gagner des revenus très différents simplement parce que l'une correspond davantage aux préférences ou aux biais du client. Le système favorise des formes de discrimination qui n'ont rien à voir avec la qualité du service. Pouvons-nous regarder plus loin? Envisager un modèle où le service est reconnu comme un métier à part entière, avec un salaire juste, stable, prévisible? Le pourboire, en théorie, sert à récompenser l'excellence. En pratique, il pallie un salaire trop bas. Certains diront, mais les serveuses et serveurs gagnent souvent plus avec les pourboires. C'est vrai, les bons soirs. Lors des mauvais, ils encaissent la baisse sans filet. Verser un salaire pour le service obligerait les employeurs à ajuster la rémunération à la hausse pour refléter la réelle valeur du travail, tout en donnant enfin accès aux avantages sociaux prévus pour la majorité des travailleurs. Et il faut être honnête. L'opacité fiscale du système laisse encore trop de zones grises pour les travailleurs comme pour l'État, ce qui peut favoriser une forme d'évitement fiscal. Avec une approche différente, ce serait la fin des surprises à la caisse. Le prix affiché serait le vrai coût du service, clair et prévisible, plutôt qu'un montant gonflé par un pourboire obligatoire déguisé. D'autres pays ont choisi cette voie. En France ou en Italie, le service est inclus dans le prix. Le pourboire ne devient qu'un remerciement exceptionnel, non une source de revenus essentiels. Tout le monde sait combien coûte vraiment le travail. En 2023, un sondage d'Angus Reid révélait que 59 % des Canadiens préféraient un modèle « service inclus » plutôt que le système actuel fondé sur les pourboires. Parmi ceux qui sont favorables à un changement, 86 % estiment que le modèle actuel permet aux employeurs de maintenir des salaires trop bas. Je ne propose pas une révolution du jour au lendemain, mais si l'État accepte de s'attaquer aux sources d'irritation visibles, avant ou après taxes, emoji ou pas, pourquoi ne pas aller au fond des choses? Poser la question qui dérange, le pourboire devrait-il rester la norme ou redevenir l'exception? Le débat est ouvert et il mérite qu'on s'y attarde pour le bien des clients et des travailleurs. C'était « Et si on repensait le pourboire » un texte d'Alain Reyes, paru le 11 décembre 2025 dans La Presse.
Le Canada fonce vers l'échec climatique, prévient Stephen Guilbeault. Un texte d'Alexandre Shields paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. L'ancien ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, critique sans détour l'abandon des progrès climatiques durement acquis au seul profit de l'industrie des énergies fossiles, qui est de loin la plus polluante au Canada. Résultat, il sera impossible de respecter nos engagements en matière de lutte contre la crise du climat et l'objectif essentiel de la carboneutralité a tout simplement disparu. Malheureusement, avec le recul de mesures durement gagnées comme la tarification du carbone pour les consommateurs, le plafond sur les émissions du pétrole et du gaz, les règlements sur l'électricité propre et l'abandon de notre engagement de cesser de subventionner les combustibles fossiles, il est maintenant impossible de voir comment le Canada pourra atteindre ses cibles ou même parvenir à la carboneutralité en 2050, écrit-il dans une lettre publiée récemment dans La Presse. Dans son texte, celui qui milite pour l'action climatique depuis plusieurs décennies qualifie l'accord signé par le premier ministre canadien Mark Carney et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, d'importants pas en arrière dans la lutte contre les changements climatiques, ainsi que de vente au rabais. Soutien aux pollueurs. M. Guilbeault insiste d'ailleurs sur le fait que ce protocole d'entente Canada-Alberta abandonne plusieurs mesures clés, durement acquises, qui ont été rigoureusement modélisées, consultées, négociées et mises en œuvre ou proposées au cours de la dernière décennie. Il revient notamment sur la décision de mettre sur pause toute volonté d'imposer un plafonnement des émissions de l'industrie des énergies fossiles, qui est la plus polluante au Canada et qui exporte chaque année plus d'un milliard de tonnes de gaz à effet de serre, GES. Il n'y a aucun scénario crédible pour atteindre les cibles de 2030 si le secteur le plus polluant du Canada ne fait pas sa juste part. C'est précisément pour cela que le plafond avait été proposé, non pas pour cibler qui que ce soit, mais pour garantir une réelle reddition de comptes, souligne Stephen Guilbeault. À titre d'exemple, les émissions de l'industrie des sables bitumineux ont augmenté de 480% depuis 1990, selon les données du gouvernement fédéral. Et tout indique que cette croissance des émissions qui alimente la crise climatique planétaire va se poursuivre. Le gouvernement Carney est non seulement favorable à la hausse de la production, mais il compte aussi autoriser un nouveau projet de pipeline vers la côte ouest, en plus des nouveaux projets qui permettront d'augmenter les exportations de gaz naturel liquéfié produit à partir de gaz exploité par fracturation. Risque d'échec total. En guise de solution, pour réduire les émissions de l'industrie pétrolière, le gouvernement Carney a décidé d'appuyer le projet de capture et de stockage de carbone, CSC, dont l'industrie des sables bitumineux fait la promotion depuis plusieurs années. Ce projet de plus de 16 milliards de dollars doit en théorie être développé entre 2027 et 2040, selon les prévisions actuelles du gouvernement. S'il fonctionne, notamment grâce au soutien financier public que les entreprises réclament déjà, il pourrait capter de 10 à 12 millions de tonnes de GES, soit au mieux 13 % des émissions annuelles de 2023 de l'industrie au pays. Pour Stephen Guilbeault, se fier à la CSC est une erreur, puisque cette technologie n'est pas une solution miracle, contrairement à ce qu'affirme le lobby des énergies fossiles. En citant l'Institut Pembina, il souligne que l'ajout d'une production quotidienne d'un million de barils par jour, comme cela a été évoqué au cours des derniers jours, nous laisserait dans une situation plus polluante que de maintenir la production actuelle, sans CSC. L'ancien ministre fédéral de l'Environnement, qui a démissionné le jour de l'annonce de l'accord entre Mark Carney et Daniel Smith, critique sévèrement les reculs imposés par le gouvernement de Mme Smith sur le développement des énergies renouvelables en Alberta. Il la met du même souffle au défi de présenter un plan crédible pour atteindre sa cible de carboneutralité pour 2050. Oui, l'ordre politique et économique mondial a été bouleversé, mais le climat, lui, ne nous attendra pas. Le Canada réduisait ses émissions à un rythme encore jamais vu dans notre histoire tout en ayant une économie en croissance, rappelle Stephen Guilbeault. Désormais, écrit-il, le risque d'un échec total est immense. Selon une analyse de l'Institut climatique du Canada, qui relaie des constats scientifiques également inscrits dans différentes études, les répercussions des changements climatiques coûteront des milliards de dollars au pays, faisant augmenter le coût de la vie avec le ralentissement économique, les hausses d'impôts par les gouvernements pour régler la facture des catastrophes climatiques, la multiplication des pertes d'emplois et les biens de plus en plus coûteux en raison du bouleversement des chaînes d'approvisionnement. La ministre Julie Dabrussin défend le gouvernement Carney. Réagissant à la lettre publiée par son collègue libéral Stephen Guilbeault, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrussin, a affirmé en mêlée de presse que « tout le caucus a un intérêt à lutter contre le changement climatique ». J'ai beaucoup de respect pour Stephen Guilbeault et son engagement pour l'environnement, mais je ne suis pas d'accord avec sa prise de position, a-t-elle ajouté. Selon Mme Dabrussin, qui a été nommée ministre par Mark Carney, on doit travailler avec toutes les provinces pour atteindre nos cibles climatiques. Elle a répété que le Canada veut atteindre ses cibles. Elle n'a pas donné de détails sur les moyens d'y parvenir tout en mettant de côté le plafonnement des émissions de l'industrie des énergies fossiles, en augmentant la production et en facilitant les exportations de pétrole et de gaz. Toutes les données scientifiques climatiques disponibles à l'heure actuelle indiquent qu'il est impossible de limiter le réchauffement planétaire sans réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Celles-ci émettent 75% des émissions mondiales de CO2. C'était « Le Canada fonce vers l'échec climatique », prévient Stephen Guilbeault, un texte d'Alexandre Shields paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.